La question que j'aimerais que l'on se pose et que j'aimerais vous poser est celle-ci. Peut-on compter sur la foi d'un enfant? J'ai entendu non, j'ai entendu si. Sûr. Dieu peut-il se servir d'un enfant pour accomplir sa volonté? Ah. Vous savez, parfois les enfants sont mis au second rang, mais on n'imagine pas l'importance qu'ils ont aux yeux de Dieu. Oui, les enfants, vous êtes importants. Et j'aimerais pendant ces quelques minutes, les enfants, que vous prêtiez attention à ce qui va être dit. Il y a un passage dans l'Ancien Testament que nous allons lire ensemble dans le deuxième livre des Rois. Deux Rois, chapitre 5. Pour comprendre le contexte, nous allons lire les 20 premiers versets. Ça va être une longue lecture, mais elle sera rapide. Deux Rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, Accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets. » Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici, toutefois, ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. Amen. » Quelle belle histoire! Quelle belle histoire! L'accent est mis sur cet homme Naaman, mais on se rend compte qu'il y a eu au préalable un autre personnage, même si le passage ne nous dit pas plus sur cette jeune fille, le peu qu'elle a pu dire a eu un impact considérable. Il n'en faut pas beaucoup pour prendre de l'importance aux yeux de Dieu. J'aimerais m'adresser aux enfants. Les enfants, est-ce que vous connaissiez cette histoire de cette jeune fille? Non, vous ne connaissiez pas cette histoire. Et pourtant, elle est belle cette histoire. Il nous parle de cette jeune fille qui a été amenée captive par l'armée de Syrie, qui a été transportée de chez elle pour une autre terre. Et arrivée, elle est au service de cet homme. Et il arrive qu'elle découvre que son maître était lépreux. C'est quoi pour vous la lèpre, les enfants? Vous savez ce que c'est la lèpre? C'est quoi la lèpre? La lèpre, c'est une maladie de peau qui était très dangereuse à l'époque, très contagieuse, et parfois même qui pouvait conduire jusqu'à la mort. Aujourd'hui, on n'en parle pas trop de la lèpre. Hein. Et pourtant, à l'époque, elle était ravageuse, la lèpre. Alors cet homme était peut-être au premier stade, puisqu'il était toujours en service. Sa lèpre était peut-être au tout début. Mais cette fille voit ce qui se passe sur le corps de son maître. Le titre de ce message, « Que vaut la foi d'un enfant ?» Que vaut la foi d'un enfant ? Pour vous parents, si un jour votre enfant se présenter à vous et vous dites, « Papa, maman, j'ai entendu ce mot foi. Qu'est-ce que c'est ? » Que diriez-vous dans vos propres mots qui puissent amener l'enfant à comprendre ? Que répondriez-vous à votre enfant ? S'il venait à vous poser la question, « Papa, maman, qu'est-ce que la foi ? » Que répondriez-vous ? Alors les parents, je m'adresse à vous maintenant. Que répondrez-vous en des termes qui puissent amener l'enfant à comprendre? Rappelez-vous, c'est un enfant. La confiance à Dieu. Autre chose? Croire? Autre chose? Les enfants, si je vous posais la question, c'est quoi la foi? Qu'est-ce que vous me répondrez? Qu'est-ce que vous me répondrez, les enfants? La foi. C'est quand on fait confiance à Dieu. Alors, pour cette fille, elle voit quelque chose qui est sur son maître, quelque chose de terrible. Et elle s'empresse d'aller voir sa maîtresse en disant, si mon Seigneur pouvait aller voir le prophète, il le guérirait de sa lèpre. Il le guérirait de sa lèpre. Vous savez, déjà quand on considère la situation de cet enfant, elle a été amenée captive. Elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas chez elle. Elle est en terre étrangère. Mais elle trouve quand même la force et le courage de chercher la bénédiction de quelqu'un qui l'a amenée captive. Quelle leçon! Quelle leçon! Vous savez, quand notre chemin est parfois caillouteux, quand parfois l'orage nous tombe dessus, on peut faire des choses pour nous protéger. On peut prendre quelque chose pour nous protéger quand il y a l'orage. Mais, vous savez, il y a une chose indispensable. Une chose invisible aux yeux des hommes que l'on ne peut pas acheter, mais qui est vitale, c'est notre foi. Et là, la foi de cet enfant, la foi de cette fille, a conduit cet homme, Naaman, non seulement à être guéri de sa lèpre, mais à découvrir le Dieu d'Israël, le Dieu de la foi. La foi de cet enfant contraste avec l'attitude du roi d'Israël. Lorsqu'elle voit son maître, elle s'empressa d'aller dire à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur pouvait aller voir le prophète !» Ce n'était pas le prophète en lui-même qui allait guérir, mais c'était Dieu au travers du prophète. Mais elle avait confiance. Elle avait confiance au prophète, mais encore plus, elle avait confiance au Dieu du prophète. Parce que toute guérison ne vient pas d'un homme. Ce qui nous amène à réaliser que les enfants, vous avez de l'importance. Dieu vous a placé dans un endroit. Parfois, peut-être que vous ignorez, mais vous pouvez être une source de bénédiction. Cet enfant ne réalisait pas qu'elle était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, pour vous, les enfants, écoutez-moi bien. Écoutez-moi, les enfants. Ce matin, vous êtes différents. Vous habitez dans des lieux différents. Vous êtes dans des écoles différentes. Mais là où vous êtes, Dieu peut se servir de vous. Kali, Dieu peut te servir de toi. Oui, pour bénir non seulement ta famille, tes copains, tes copines, et peut-être même tes enseignants. Oui, chaque enfant peut être une source de bénédiction. Là où le Seigneur vous a placé, vous voyez, cet enfant, elle n'était pas chez elle. Mais le Seigneur s'est servi d'elle. Elle trouve malgré tout la force et le courage de chercher à bénir son maître. Elle aurait pu se taire. Hein? Parce que imaginez peut-être si c'était un adulte. Imaginez peut-être si c'était un adulte qu'on a amené captif. J'imagine si c'était moi. Si c'était moi, on me fait sortir de chez moi, on m'amène quelque part et je suis en train de servir. Peut-être que j'aurai de la rancune, j'aurai de l'amertume. Parce que je me dis, il m'a amené dans un autre pays. je suis à son service. Alors, non, je ne peux pas le bénir. Hein. Non, Seigneur, tu ne peux pas le bénir. Je parle de moi en tant qu'adulte. Hein. En tant qu'adulte. Peut-être que ça aurait pu être votre façon d'agir. Parce que nous, les adultes, c'est comme ça qu'on raisonne. Quand on est en situation de difficulté, ce n'est pas le propre de l'homme de chercher à bénir celui qui nous a sauvés. Humainement, c'est impossible. À moins que le Seigneur nous fasse grâce. Mais cet enfant, parce qu'il était placé là au moment voulu de Dieu, elle a su être une source de bénédiction pour cet homme. Il y a là quelque chose de merveilleux. Parce que la foi est notre acceptation d'un fait de Dieu. Et Dieu peut se servir de la confiance innocente d'un enfant pour se glorifier. Oui, je répète, Dieu peut se servir de la confiance innocente d'un enfant pour se glorifier. Regardez ce qui est dit dans l'évangile de Marc. Comment voit Jésus? Quel regard a-t-il sur les enfants? Dans Marc au chapitre 10, nous pouvons lire ceci à partir du verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Voilà l'attitude de Jésus devant les enfants. Vous savez, nos enfants nous croient parce qu'ils nous font confiance. C'est ça un enfant. C'est une confiance innocente. L'enfant, il a confiance à ses parents. Et quand il a confiance à ses parents, voilà, il se livre facilement. Jésus nous montre par là que notre foi doit ressembler à celle d'un enfant. Non pas que nous devons nous mettre au rang d'un enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant adopte une attitude de simplicité et de confiance vis-à-vis de l'adulte dont il dépend. Il adopte cette attitude-là, l'enfant. Une attitude de simplicité et de confiance. Telle devrait être, vous savez, l'attitude selon Jésus, des hommes qui s'approchent de lui. Vous savez, lorsqu'un adulte découvre la foi, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il vient avec ses expériences. Un enfant n'a pas tellement d'expérience. Il est au premier stade de sa vie sur la terre. Mais quelqu'un qui a de l'âge, il a quand même des expériences, bonnes ou mauvaises. Et quand on vient à Jésus, on vient avec toutes nos expériences. Mais lorsque Jésus nous dit d'accepter le royaume de Dieu comme un petit enfant, nous demande-t-il d'abandonner toutes nos expériences? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais il nous demande simplement d'avoir un changement d'attitude. Parce que l'adulte diffère de l'enfant, parce qu'au moment où l'enfant a une attitude de simplicité et de confiance, l'adulte, lui, parfois il se croit suffire à lui-même. Il se croit suffire à lui-même. L'enfant, il dépend de ses enfants, de ses parents. Il sent cette dépendance. Mais l'adulte, malheureusement, parfois, à cause de ses expériences, il se voit suffire à lui-même. Donc, il y a une opposition entre la dépendance et l'autosuffisance. Quel contraste! Alors que le désir de Dieu, c'est que nous nous appuyons sur lui, c'est que nous nous fassions entièrement confiance pour être guidés comme font les enfants avec les adultes. L'enfant, quand vous lui dites « donne-moi la main », il vous donne la main et vous l'amenez. Par contre, l'adulte, Dieu nous dit « donne-moi la main » et on se dit « c'est difficile, hein ? C'est difficile. » Est-ce que vous connaissez l'expression « je ne crois que ce que je vois » ? Vous connaissez cette expression ?« Je ne crois que ce que je vois. » Eh oui, peut-être qu'un jour on a eu à dire ceci. Hein. « Ah non, non, moi je ne crois que ce que je vois. » Vous savez que cette expression est tirée de la Bible. Hein. Ce n'est pas les hommes qui ont créé ça, c'est tiré de la Bible. C'est tiré de la Bible. Elle vient d'un certain homme, Thomas. Les enfants, vous connaissez Thomas dans la Bible ? Vous connaissez Thomas ? Oui, toi, tu dis oui tout le temps. Qui connaît Thomas dans la Bible, les enfants ? Ruben, tu connais Thomas ? Si. Tu peux me dire quelque chose sur Thomas, s'il te plaît. Qui est Thomas ? Dis-moi, qui est Thomas ? Il ne sait pas. Y a-t-il un enfant qui connaît Thomas dans la Bible ? Ne soyez pas timides, les enfants. Hein? Qui connaît Thomas, les enfants ? Vous ne connaissez pas Thomas ? Ah, les adultes, on connaît Thomas quand même. Thomas, hein? Thomas est un des disciples de Jésus. Et quand nous lisons les évangiles, surtout l'évangile de Jean, il est celui qui avait même encouragé les disciples à suivre Jésus jusqu'à la mort. Il était celui qui encourageait les autres à suivre Jésus. Mais il est aussi celui qui a douté du Seigneur. Et pourtant, il avait vu de grandes choses. Hein. Quelle leçon on peut tirer de l'expérience de Thomas ? Nous lisons ceci dans l'évangile de Jean au chapitre 20, versets 24 à 29. Nous voyons parfois que le doute altère notre foi. La foi, Thomas voulait sentir quelque chose. Il voulait quelque chose de palpable, de visible, avant de croire. Et pourtant, la foi ne doit pas dépendre de preuves palpables. Sinon, ce n'est plus la foi. Et Dieu veut que nous croyions, même si nous ne le voyons pas. Malheureusement, certains chrétiens ont une partie de Thomas en eux. Certains chrétiens ont une partie de Thomas en eux. Ils ont vu le Seigneur à l'œuvre dans leur vie, comme Thomas. Thomas était disciple, il a suivi Jésus. Il a vu de grandes choses, il a vu des miracles. Certains chrétiens ont vu le Seigneur agir dans leur vie. Ils ont vu le Seigneur à l'œuvre à plusieurs reprises. Mais devant des circonstances, devant des situations que nous ne maîtrisons pas parfois, ils arrivent à douter de la capacité de Dieu d'agir. Et pourtant, que nous dit Hébreux 11, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Nous connaissons ces choses, frères et sœurs. Nous avons vu le Seigneur à l'œuvre. Nous avons vu peut-être même sur notre vie sa puissance. Nous avons peut-être été la preuve de la puissance de Dieu. Certains autour de nous, nous avons prié, nous avons vu le Seigneur agir. Mais devant une situation qui nous incombe, devant quelque chose qui échappe à notre entendement, on est humain, nous arrivons parfois à douter, même si on a vu quelque chose que Dieu a fait. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que certains chrétiens ont parfois une partie de Thomas en eux, parce qu'ils raisonnent ainsi. Je ne crois que ce que je vois. Mais Jésus nous montre également que sans la foi, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Souvenez-vous de cet épisode avec Lazare et ses deux sœurs. Il dira aux sœurs, « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois. » Cela veut dire que si je ne crois pas, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Si je ne place pas ma confiance en Dieu, je ne le verrai pas agir. Alors que pour l'enfant, l'enfant, lui, il se livre. Cette fille a dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur pouvait aller voir le prophète, il le guérirait de sa lèpre. » D'où vient cette confiance? D'où provenait cette assurance-là? D'où lui provenait cette assurance que si son maître allait voir le prophète, il le guérirait de sa lèpre? D'où lui venait cette assurance? Je n'ai pas entendu. Pardon? De ses parents, peut-être? Eh oui. Parce qu'elle avait peut-être entendu parler non seulement du prophète Élisée et tout ce qu'il avait accompli, mais parce qu'elle avait aussi entendu parler du Dieu d'Élisée. Parce que Élisée n'agissait pas par lui-même. Il agissait au travers du Dieu d'Israël. Donc quand la fille dit à sa maîtresse, « Si mon maître pouvait aller voir le prophète », ce n'était pas le prophète en tant que tel, mais c'était Dieu. Elle avait confiance. C'est pour cela que nous ne devons pas nous empêcher d'enseigner à nos enfants les choses concernant Dieu. Je bénis le Seigneur pour le club des enfants, le culte des enfants, appelez-le comme vous le voulez. Ils ont leur moment à part où ils sont enseignés, où ils sont ensemble, le cadre leur convient, ils reçoivent l'enseignement. Mais je crois que les enfants, outre ce qu'ils reçoivent dans le culte des enfants, les enfants ont besoin de voir au milieu de nous la puissance de Dieu. Non seulement ici, mais aussi à la maison, où il y a de temps en temps les parents qui se réunissent avec les enfants autour de la parole de Dieu. Les enfants, écoutez-moi. Peut-être que les parents le font, mais arrivez chez vous, de temps en temps, dites « Papa, maman, est-ce qu'on peut lire une histoire de la Bible ensemble un peu ?» Oui, dites-le, réclamez-le à vos parents. Ce qui est enseigné ici ne suffit pas. Parce que ce n'est pas le pasteur qui est responsable. Hein. Ce n'est même pas les moniteurs ou monitrices qui sont responsables de nos enfants. Je suis responsable de mes enfants, en premier lieu. Parce que c'est à moi que Dieu va demander des comptes par rapport à mes enfants. Ce n'est pas la monitrice de l'école de dimanche. Même si elle a une certaine responsabilité, je ne dis pas le contraire. Mais la première responsabilité nous incombe. Notre foi se fortifie à travers notre intimité avec le Seigneur. Et de cette intimité, parfois, le Seigneur nous met dans des situations, non pas pour que je sois en difficulté, mais pour éprouver notre foi, notre confiance. C'était l'exemple d'Abraham. Abraham, Dieu lui a mis dans une situation, non pas pour qu'il soit en difficulté, mais pour mettre à nu le fondement de sa foi. Et lorsque cet homme va être confronté à toutes ces épreuves qui échappent à l'entendement humain, il n'a pas regardé à ce qui est autour, il a regardé au Dieu, à son Dieu. Vous savez, elle est essentielle, la foi, tout au long de notre marche avec Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre du prophète Habacuc que le juste vivra par sa foi. Donc, on vient à Jésus par la foi, on chemine avec lui par la foi. Je ne peux pas tout au long de ma marche me détacher de la confiance. Parce que si je me détache de cette confiance, je vais faire naufrage. Cela, nous pouvons prendre l'image de Pierre. Quand Jésus va lui dire, sors de la barque et viens à ma rencontre. Il avait confiance, Pierre. Lorsqu'il est sorti de la barque, il avait confiance. Il a commencé à marcher. Mais une fois qu'il a détourné ses regards de celui qui l'attendait et qu'il a vu tout ce qui se passait autour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler. Voyez-vous, frères et sœurs, il en est de même pour nous. Je suis venu au Seigneur par la foi. C'est la foi qui m'a sauvé. Mais je chemine avec Dieu en lui faisant confiance, en lui permettant de me conduire. Ce n'est pas moi qui conduis la barque, mais c'est lui qui conduit la barque. Dans Luc au chapitre 18, lorsque Jésus nous parle de cet épisode avec la femme et le juge qui était sans cesse en train de l'importuner, à la fin il dira ceci: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez, dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, les circonstances qui sont devant nous, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais parfois, les circonstances sont au-delà de notre compréhension, de notre entendement, qu'on se pose des questions. C'est pas mal de se poser des questions. Hein? C'est pas mal de se poser des questions. Mais ne laissons pas nos questions nous détourner de notre confiance en Dieu. Parce que si mes questionnements m'amènent à prendre une direction autre que celle que le Seigneur a tracée pour moi, c'est la catastrophe pour moi. Parce que par moi-même, je ne peux pas changer les circonstances. Je ne peux rien changer. Mais je fais confiance en celui qui est maître des circonstances et des temps, à savoir notre Dieu. C'est lui qui peut faire quelque chose. Moi, je ne fais qu'accepter ce qu'il fait. Parce que qui suis-je pour questionner Dieu et ce qu'il fait sur la terre? Lorsque Jésus dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez, il parle ici de la foi persévérante comme celle de la femme qui ne cessait d'importuner ce juge. Elle a persévéré jusqu'à ce que le juge même se rende compte. Il a vu la persévérance de cette femme, de cette veuve. Cette foi persévérante est à l'image également de la femme à la perte de sang, qui, en dépit de tout ce qui était autour, elle est allée jusqu'au bout. Si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alors que si on considère la condition de cette femme, si elle n'aurait même pas dû être là au milieu de la foule à cause de sa situation. Et au regard de la foule, il y avait là comme une barrière. Il fallait qu'elle se faufile. Mais elle a eu confiance. Elle savait. Elle savait qu'il fallait quand même qu'elle aille jusqu'au bout. Et Jésus, le Seigneur Jésus, a honoré sa foi. Frères et sœurs, au regard de ce qui a été dit, quand nous revenons sur cet épisode de Naaman, nous voyons que, en lisant cet épisode, on a l'impression que l'accent est mis sur Naaman. Alors que, s'il a pu être mis à nu, c'est à travers cette parole de cette fille. Si mon Seigneur pouvait aller voir le prophète, il le guérirait. C'est cette parole toute simple, hein, mais puissante. Parce que la parole, elle était fondée sur ce que pouvait faire Dieu au travers de l'homme de Dieu. Une parole simple avec une conséquence énorme. Pourquoi ? Parce que cet homme, non seulement a été guéri, mais il a lui-même découvert le Dieu d'Israël. Quelle grâce ! Donc, au travers d'un enfant, quelqu'un peut découvrir la foi. À travers la foi innocente d'un enfant, un adulte peut même découvrir Jésus. D'où l'important pour nous, en tant que parents, de ne pas négliger, de ne pas sous-estimer la foi innocente que peut avoir notre enfant. Parce que parfois on se dit, il n'écoute pas, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Hein? Le peu qu'ils entendent a un impact dans leur vie. Oui, parce que parfois, oui, les enfants, tenir 45 minutes sur une chaise pour écouter, c'est difficile, je le reconnais. Je le reconnais. Parce que j'ai été moi-même enfant. Eh oui. C'était difficile pour moi de rester sur la chaise. Comme c'est difficile pour mes filles. Parfois, je me rappelle, mes parents étaient en train, je me faufile. Ça, ne le dites pas à mes filles, elles ne sont pas là. Hein. Voilà. Pendant le culte, je me faufilais entre les chaises. Et je me rappelle, ma maman, elle venait, elle me tirait par le pied. Sors de là, assieds-toi là. Elle a persévéré. C'est difficile, mais le peu qu'on entend peut avoir de l'impact. Lorsque Paul va parler, je termine avec ceci. Lorsque Paul s'adresse à Timothée, il lui dira ceci. Dans 2 Timothée au chapitre 1er. 2 Timothée chapitre 1er. Versets 3 à 5. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Et voilà la partie qui nous intéresse. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Paul est en train de montrer qu'à travers la grand-mère de Timothée et sa mère, à travers leur vie de consécration et leur foi, leur confiance en Dieu, Timothée a découvert ce qu'est la confiance en Dieu. Il dira, cette foi sincère qui habita d'abord dans ton aïeul, Eunice, et dans ta mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Merci Seigneur pour les grands-parents qui ne cessent de prier pour les enfants. Merci Seigneur pour les grands-parents qui ne cessent chaque jour d'amener leurs petits-enfants. Même si parfois les parents sont un peu pris ou ne veulent pas, il y a des grands-parents qui, lorsque l'occasion se présente, sont là avec leurs petits-enfants. Que Dieu vous bénisse. Oui, je prie vraiment que Dieu vous bénisse. Et merci Seigneur également pour les parents qui ne cessent, malgré les difficultés, d'être présents avec leurs enfants. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas le fruit. Mais permettez-moi de vous dire, ça portera du fruit. Il y a déjà du fruit. Et en son temps, vous le verrez. Parce que ça commence tout petit. C'est ce que Paul nous a dit. Alors, frères et sœurs, et vous, enfants, vous savez, l'histoire de cette jeune fille, ça peut être votre histoire. Même si les circonstances sont défavorables, où que vous soyez, vous pouvez être une source de bénédiction. Oui, les enfants, je le répète, vous pouvez être une source de bénédiction. Vous voyez, dans le texte, on ne connaît pas le nom de cette jeune fille. Donc, votre nom peut être... On peut vous inscrire également dans cette histoire. Ou devant une situation, au travers de ce que vous entendez ici ou dans le club des enfants, il y a quelque chose qui se produit, qui se passe à l'intérieur de vous. Dieu agit à travers vos vies, les enfants, et en son temps, le Seigneur pourra se servir de vous pour parler à quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour dire à votre copain, à votre copine, « Tu sais, Jésus t'aime. Jésus t'aime. » Ah, que c'est bon. Et nous devons, en tant que parents, d'assumer nos responsabilités en ce qui concerne l'éducation chrétienne de nos enfants. Je bénis le Seigneur. Je l'avais dit, je le répète encore, si je suis ce que je suis aujourd'hui, oui, je rends grâce à Dieu. Mais je bénis le Seigneur pour les prières sans cesse de ma mère. Parce que je me rappelle, à chaque fois qu'il y avait une situation, elle s'enfermait dans sa chambre et elle intercédait. Combien plusieurs fois, devant une situation donnée, je suis allé ouvrir la porte et j'ai vu ma mère en train de prier. Alors je bénis le Seigneur. Elle n'est pas là aujourd'hui pour voir le fruit. Mais je rends grâce à Dieu pour ses prières incessantes. C'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Quelles que soient les circonstances, ne perdez pas courage. Persévérez. Parce que Dieu a quelque chose en réserve pour vous, même si aujourd'hui nous ne voyons pas. Et je rends grâce à Dieu. On va prier. On va prier pour les enfants. Que le Seigneur bénisse vraiment ses enfants. Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Nous, En tant qu'adultes, nous voyons ces choses et parfois nous nous inquiétons. Hein, nous nous inquiétons. Combien de fois j'ai entendu des parents dire et nos enfants, comment vont-ils faire? Comment vont-ils faire? Vous savez, nous sommes démunis devant tout ce qui se passe. Mais nous plaçons notre confiance en celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. En celui qui est capable de changer les circonstances et les temps. En celui qui, au sein même de la difficulté, au sein même de la détresse, est capable de nous inonder de sa paix. Et c'est ce qu'il veut faire. Pour cette jeune fille, Dieu l'a inondée de sa paix. Et elle a été une source de bénédiction. C'est pour cela que j'aimerais vraiment, et j'insiste là-dessus, nous aimerions que les enfants puissent avoir leur temps avec les autres enfants à l'école de dimanche. Mais il est important que de temps en temps, les enfants soient au milieu de nous. Alors les parents, ne vous inquiétez pas s'ils sont agités. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Mais les enfants ont besoin de vivre ce que nous vivons. Les enfants ont besoin de voir parfois des parents fléchir le genou et crier à Dieu. Les enfants ont besoin de voir, de vivre ces choses-là. Ils ont besoin de vivre ça pour pouvoir un jour dire. Quand on leur pose la question en ce qui concerne la foi de leurs parents, non seulement dans ce lieu, mais aussi dans nos maisons. Oui, dans nos maisons. Ne cessons pas. Je sais que c'est difficile. J'en ai deux qui sont terribles. Mais avec mon épouse, on ne baisse pas les bras. Donc ne baissez pas les bras. C'est difficile, je sais. Mais persévérez. Persévérez parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et c'est lui qui nous donnera la force d'aller jusqu'au bout. Et par sa grâce. Et nous prions réellement que du milieu de ces enfants, il y ait des hommes et des femmes de Dieu. Il y ait au milieu de ces enfants des serviteurs de Dieu. Qu'au milieu de nos enfants, il y ait des épouses de serviteurs. Qu'au milieu de nos enfants, il y ait des missionnaires. Et nous prions réellement que Dieu agisse, même dès leur jeune âge, dans leur jeune cœur, que la parole de Dieu ait son efficacité dans leur vie. Que Dieu soit béni. Oui, que Dieu soit béni. Prions ensemble. À toi la gloire, Seigneur. Tu as dit toi-même, laissez venir à moi les petits-enfants. Et ne les empêchez pas, Seigneur. Éternel, ce matin, nous prenons conscience des temps dans lesquels nous sommes. Nous prenons conscience des difficultés dans lesquelles nous sommes baignés. Mais au sein de ces difficultés, Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains nos enfants, te demandant dans ta grâce de les garder. Seigneur, préserve nos enfants dans le nom de Jésus, où qu'ils soient, Seigneur. Que ta bonne main les garde et les préserve. Seigneur, éloigne de ces enfants, Seigneur, toute mauvaise compagnie. Seigneur, oui, que ta parole ait toute son efficacité dans leur cœur et donne-leur la force au temps convenable, comme cette jeune fille devant une situation, de montrer, Seigneur mon Dieu, que leur confiance est en toi. Ô Éternel, je te prie, nous te demandons que ta faveur soit sur ces enfants. Seigneur mon Dieu, mon roi, que dès leur jeune âge, Seigneur, ils fassent la paix avec toi. Seigneur, que dès leur jeune âge, ils puissent décider, Seigneur, non seulement de t'accepter, mais de te suivre. Et nous prions également que dès leur jeune âge, Seigneur, tu les baptises dans le Saint-Esprit. Oui, nous réclamons ton intervention divine sur nos enfants. Alors, Seigneur, bénis ces enfants, Seigneur. Baptise-les dans le Saint-Esprit. Oh, mets-les à part, Seigneur, pour toi. Qu'au sein, du milieu de ces enfants, il se lève des hommes et des femmes qui vont te servir. Éternel, reçois notre adoration. Oui, aide-nous en tant que parents. Accorde-nous ta sagesse et ton intelligence. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir les éduquer dans tes voies et d'avoir, Seigneur, en toute humilité, l'exemple, l'attitude qu'il faut, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas les irriter. Seigneur, nous ne voulons pas les écœurer, mais nous voulons simplement les enseigner. Alors nous voulons, Seigneur, les enseigner. Alors, Seigneur, nous voulons nous laisser nous-mêmes enseigner par toi afin d'être des modèles pour nos enfants. Bénis les parents, Seigneur. Bénis les parents. Seigneur, je ne sais pas ce qu'ils vivent à la maison, mais je te prie dans ta grâce d'étendre ta main. Viens en aide à celui ou à celle qui n'en peut plus, Seigneur. Je te prie de le relever, de l'encourager. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, d'agir. Ô Éternel, tu es notre secours. Merci également pour les grands-parents qui ne cessent d'intercéder. Oui, Seigneur, bénis-les. Je sais que tu n'as pas encore fini avec eux malgré leur âge avancé, Seigneur. Ô combien nous avons besoin de ces grands-parents qui intercèdent jour et nuit pour ces enfants, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, ces enfants, oh, je refuse qu'on dise que les enfants sont l'église de demain. Seigneur, ces enfants sont l'église d'aujourd'hui. Oh, Seigneur, oui, bénis-les. Bénis-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.